Dialogue entre Congolais avec Alain Irung.
Bonsoir. À quelques semaines de la tenue des élections, quel pourrait être l'apport de la société civile pour garantir le bon déroulement du processus électoral en RDC? Nos invités dans cette émission sont Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile du Congo, NSCC. Monsieur Tchombela, bonsoir.
Bonsoir.
Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment, l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo, UCC, et analyste. Et ainsi que Joseph Kongolo, analyste politique. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Boniface Mouya de Kananga au Kasaï occidental. Je pense que la société civile doit être au milieu du village. Elle ne peut pas avoir les couleurs des partis politiques. Qu'il est les Jean-Pierre du Katanga, la société civile ne peut rien et son apport pour garantir le bon déroulement du processus électoral est nul, parce qu'en RDC, les élections sont basées sur le tribalisme et le régionalisme. La société civile ne peut rien à ces deux fléaux. N'est-ce pas vrai que la société civile nous donne le contraire de ce qu'on attend d'elle? Que peut-elle encore faire pour contribuer à l'avancement de ce processus électoral? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Sensibiliser et mobiliser la population congolaise pour des élections crédibles et paisibles, c'est l'un des objectifs de la campagne d'éducation civique et électorale lancée vendredi dernier à Kinshasa par la Conférence épiscopale nationale du Congo. La CENCO entend éveiller la conscience des électeurs et de ceux qui seront élus. Après la formation des formateurs, elle entend fournir environ 30 000 observateurs aux prochaines élections. À ce sujet, le président de la CENCO a remis du matériel didactique aux représentants des confessions religieuses, des partis politiques, des ONG et associations membres de la société civile. Monseigneur Nicolas Jomo, président de la CENCO, revient sur la restauration de la paix à travers cette campagne. Il était au micro d'Onésime Mukandila.
Notre action touche tous les Congolais sans distinction, sans discrimination. Il y a tout un réseau qui part bien sûr de Kinshasa, mais qui arrive véritablement à la base à travers toute l'étendue de notre pays. Nous faisons l'éveil de la conscience, de tous citoyens congolais, ceux qui auront à élire et les élus, pour dire que ce que l'on vise, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Pour ça, la condition essentielle, c'est la paix. Lorsqu'on a la paix, eh bien, on donne une chance à la démocratie, à la croissance économique, et alors ça peut déboucher sur l'amélioration des conditions de vie. Donc, un appel à la conscience des Congolais qui ont un contrat social qui consiste à faire de ce pays viable et intéressant pour tout le monde. Notre commission Justice et Paix a des relais jusqu'à la base. Jusque dans les diocèses, dans toutes nos paroisses, dans toutes les communautés ecclésiales vivantes, où nous rencontrons tous les Congolais, pas seulement les catholiques, mais aussi les non-catholiques auxquels ce message est adressé. Alors il y a ce qu'on appelle les comités locaux de gouvernance participative. C'est situé à la base même de la société. Et là, comme je l'ai dit, notre action touche tous les Congolais sans distinction, sans discrimination.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo et analyste. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous ne parlez pas, c'est vrai, au nom de la CENCO, mais lancer cette formation des formateurs à quelques semaines de la date du 28 novembre, cette formation n'est-elle pas tardive?
Absolument, elle est très tardive. Et vous savez, la démocratie, avant d'être une organisation, avant d'être une structure, avant d'être les élections, comme on dit, est une mentalité et une culture qui s'acquiert par l'éducation civique. On ne peut pas éduquer un peuple ou un homme en un mois, en une année. L'acquisition de cette mentalité démocratique et de cette culture politique ne peut pas se faire en deux mois, en une année. On aurait dû commencer à faire cette éducation au lendemain des élections de 2006. Il fallait qu'on le fasse à ce moment-là. Alors, vous comprendrez que ce qu'on est en train de faire maintenant vient absolument trop tard. N'oubliez pas que nous avons un peuple qui connaît, qui souffre des deux principaux obstacles à la démocratie, à savoir la misère et l'ignorance. La misère frappe plus de 70% de la population congolaise qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Dire aux gens de descendre dans la rue quand ils n'ont pas mangé et les empêcher de faire de la violence, c'est pratiquement impossible. Les gens qui n'ont pas mangé, ils seront tentés d'aller prendre des beignets, et des arachides et de s'en prendre au ligableau de ceux qui sont au bord de la route. Quant à l'ignorance, vous savez que l'UNESCO nous a dit récemment qu'il y a 80 millions, il y a 18 millions de Congolais qui sont analphabètes. 18 millions! C'est pratiquement le tiers des électeurs. Comment est-ce que vous allez pouvez compter sur une participation citoyenne, une citoyenneté responsable de la part des gens qui ne savent lire, ni écrire? Enfin, pour ce qui concerne la CENCO, 30 000 observateurs, c'est trop peu. Il faudrait qu'il y ait des observateurs dans tous les bureaux de vote. Aujourd'hui, officiellement, il est question de 60 000 bureaux de vote. C'est d'abord trop peu, parce que si on a 32 millions d'électeurs, et si tout 32 millions d'électeurs enrôlés, et si tous se présentent, il faudrait 160 000 bureaux de vote. Et de toutes les façons, 30 000, c'est trop peu. Avec ça, l'Église, la CENCO, ne pourra pas se prononcer de façon vraiment objective. Si elle a des observateurs dans chaque bureau, alors elle peut être même capable de faire son propre dépouillement des votes. Donc il faudrait qu'il porte le nombre des observateurs de la CENCO devrait être égal au nombre des bureaux de vote. Et c'est possible puisque tous les bureaux de vote se trouvent dans des paroisses. Donc on pourrait envoyer, chaque paroisse, chaque curé pourrait dire, je m'engage à préparer des personnes fiables qui vont faire partie des observateurs de telle façon que la CENCO puisse couvrir tous les bureaux de vote. Alors, elle peut être capable de dire on a triché, on n'a pas triché.
Monsieur l'abbé, vous affirmez que cette formation de la CENCO est tardive, mais la CENCO, j'allais dire la pauvre CENCO, fait quelque chose, mais on a l'impression que les autres ne font absolument rien.
Mais ça, c'est encore pire. Ça rend encore la tâche beaucoup plus ardue. Vous savez, les élections, ça n'a rien à voir avec la religion directement. Hein. C'est vrai que la religion vous donne les valeurs morales nécessaires pour pouvoir voter de manière honnête et organiser des élections transparentes, libres et démocratiques, mais les élections en tant que telles, c'est une affaire de l'État qui dépasse les limites de l'Église. Et donc, nous devons participer, c'est nécessaire, mais nous ne devons pas le faire seuls, et surtout pas avec 30 000 observateurs. Il faudrait autant d'observateurs qu'il y a de bureaux de vote pour qu'au moins on sache combien de gens ont voté. Et qu'on puisse éventuellement, après le dépouillement, pouvoir faire une compilation qui soit indépendante des compilations de la CENI. Donc ça, pour moi, c'est très très important. Quant à l'éducation civique et à la promotion d'une mentalité démocratique et d'une culture politique, ça ne se fait certainement ni en un jour, ni en un mois, ni en une année. On aurait dû commencer ça à la fin des élections passées. J'espère que cette fois-ci, après ces élections-ci, on va commencer à éduquer les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de citoyenneté responsable sans culture et éducation politique. Ce n'est pas possible. Avec tant d'analphabètes, avec tant de gens qui ne comprennent rien, ni à la politique, ni à la démocratie, vous ne pouvez faire que des élections mimétiques.
Monsieur l'abbé, vous affirmez également qu'on aurait dû commencer cette éducation civique après les élections de 2006, mais il y a un grand débat autour de l'absence ou non d'une société civile en RDC.
Non, la société civile, c'est quoi? La société civile, c'est tous les Congolais, qui sont d'ailleurs les 90% qui n'œuvrent dans aucun parti politique et qui ne cherchent pas la conquête du pouvoir. Ils peuvent faire partie de la société civile qu'on appelle organisée, mais ils peuvent aussi faire partie de la société civile qu'on appelle non organisée. Vous, moi, peut-être qu'on n'appartient à aucun parti politique, mais nous sommes membres de la société civile. Ce sont ceux-là qui vont voter. Ce sont ceux-là, vous savez, quand les politiciens font un petit meeting avec 100 000 personnes, dans une ville comme Kinshasa, ils disent qu'ils ont fait le plein. Ils ont fait le plein de quoi? Il y a ici à Kinshasa 3 millions d'électeurs. Quand vous rassemblez 100 000, vous faites quoi? Rien. Et la plupart des Congolais ne militent dans aucun parti politique. Ils sont comme vous, comme moi, et c'est eux qui vont voter. Et c'est pour cela que la société civile a une très grave responsabilité. Pourquoi? Parce que aux élections, c'est la société civile, c'est-à-dire le peuple, qui doit poser ses conditions aux dirigeants. Il ne faut pas que les gens restent passifs comme des moutons, qu'on vient de bon temps auquel les policiers viennent imposer leurs conditions et leurs avis. C'est nous, le peuple, qui devons choisir en fonction de ce que nous considérons comme étant nos besoins, nos aspirations, notre demande sociale. Et c'est pour cela que j'invite la société civile, et il n'est pas trop tard, celle qui est organisée, à faire ce qu'on appelle un cahier de charges. Qu'est-ce que les populations congolaises attendent de leurs dirigeants? Quelles sont les conditions qu'ils leur posent pour les élire? On vous dit, messieurs, quand vous arrivez au Parlement, ne faites pas comme la fois passée où, juste après les élections, vous avez multiplié votre salaire par 4 et que vous avez laissé les autres dans la pauvreté. Donc, ce sont des conditions que nous devons poser, nous, peuple, nous, société civile. Et ça, j'invite vraiment toutes les organisations de la société civile, les ONG et compagnie, à se mettre rapidement ensemble pour pouvoir établir un cahier de charges sociales. Quelles sont les conditions auxquelles nous allons élire ceux qui se présentent aujourd'hui? Ceux qui ne sont pas capables de résoudre les problèmes du peuple, de grâce qu'ils s'abstiennent, qui ne se présentent pas.
Merci, monsieur.
Et si ceux qui se présentent n'arrivent pas à répondre au cahier de charges qu'on leur a donné, ben on peut les désavouer même en plein mandat, parce que la souveraineté du peuple doit
s'exercer
avant, pendant et après les élections.
Merci, monsieur l'abbé. Jonas Tshombela, vous êtes président de la nouvelle société civile du Congo, NSCC. La formation de la SENCO est tardive, elle fait quand même quelque chose, et vous les autres, qu'est-ce que vous faites?
Je crois que nous sommes engagés comme la SENCO sur la question de l'éducation civique électorale, mais aussi de l'observation de ces élections. Vous avez suivi tout à l'heure que c'est tardif, parce que ce n'est pas quand même dans l'espace de 2 mois qu'on va instruire tous les 18 millions analphabètes comment élire et que faire dans le cadre de ces élections. Mais nous sommes aussi engagés sur ces 2 questions essentielles qui concernent principalement à la société civile, parce que nous estimons que nous y apportons aussi du nôtre. Concrètement, vous savez que il y a une part très importante de la question qui est lié par exemple au financement de l'organisation même de l'observation comme de l'éducation civique électorale au regard même de l'étendue de notre pays. Donc c'est une question qui nous préoccupe, et nous sommes aussi sur cette question à travers les endroits où il y a nos bureaux, et nous sommes engagés réellement comme la SENCO.
Vous êtes engagé, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites sur terrain?
Oui, vous avez suivi tout à l'heure, Monsieur Labbé, vous parlez d'une situation que nous sommes en train de préparer. Concrètement, je vous donne d'abord, nous sommes en train de préparer pour la semaine prochaine l'agenda de l'électeur. C'est là que nous allons prendre toutes les exigences et besoins et aspirations de l'ensemble de la population qui seront présentés aux différents candidats.
C'est ce que M. Labbé appelait le cahier des charges.
C'est ce qu'il appelait le cahier des charges. Donc cet agenda-là sera déjà mis en place dès la semaine prochaine, et tous les candidats ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de cet agenda et quelle est la place de cet agenda dans leur programme d'action.
Cela n'est pas tardif. Ça ne devrait pas aussi commencer avant pour que les gens s'en imprègnent.
Vous savez, nous ne sommes pas sur la question électorale aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous sommes là-dessus, mais il faut voir le rythme des opérations et des problèmes qui se posent et les discussions même qui se passent. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps là que nous avons affaire à une classe politique qui a une autre vision, qui par moment distrait même la société civile, elle-même société civile qui n'a pas compris sa mission réelle.
Qui se laisse distraire aussi.
Qui se distraire par moment. Donc nous, on a commencé cette question des exigences de la population, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes partis sur beaucoup de questions. Quand on a touché par exemple à la Constitution, vous avez vu que nous étions debout. Quand on a essayé de parler de questions d'un tour, deux tours, nous avons essayé de venir là-dessus, et nous sommes sur la question de l'éducation civique électorale concrètement par cette voie-là, même si c'est tardif, mais mieux vaut tard que jamais. Nous sommes en train de nous organiser pour essayer de faire avancer la question. Mais aussi, au-delà de ces cahiers de charges qui sera disponible très bientôt, nous sommes aussi en train de voir comment rencontrer les différents candidats, du moins le présidentiel, le 11, pour qu'aussi ils prennent l'engagement devant la population qu'ils ne vont pas nous traîner dans un cycle de violence. C'est un engagement que les différents candidats doivent prendre avec la population. C'est un rendez-vous très historique parce que le Congo a tant souffert des cycles de violence. Nous n'avons pas encore besoin d'autres cycles de violence. Vous avez suivi dernièrement les tendances qui sont en place, donc les deux, la majorité comme l'opposition. Les uns pensent que les autres sont en train d'appeler à l'insurrection. Les autres sont en train de penser que non, les autres sont en train aussi de préparer les milices. Vous voyez, ça, ce n'est pas un climat qui peut nous amener à des élections apaisées. Donc, au niveau de la société civile, nous sommes aussi engagés dans la campagne d'éducation civique, non seulement des électeurs, mais aussi des candidats. Parce que les candidats aussi, ils ont une part très importante dans cette action que nous allons bientôt amorcer.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale pour vous, Jonas Tshombela.
Pepe Lisungi Botomoito depuis Kisangani dans la province orientale. La société civile congolaise est déjà politisée. Compter sur elle, c'est faire un mauvais choix. Aujourd'hui, il y a même des membres de la société civile qui ont postulé en nom des partis politiques à la députation nationale. Donc, ils sont là pour leurs intérêts. Pour preuve, maintenant au Congo, dans plusieurs villes, il y a deux ou trois coordinations de la société civile avec les changements des appellations. Cela est dit à quoi?
La société civile est politisée, ça c'est aussi un vieux débat par rapport à la RDC.
Mais je crois que le compatriote qui est en train de s'inquiéter de la société civile politisée, je crois que il a encore, c'est un vieux débat, vous l'avez dit, sur une question qui, à notre niveau, est déjà dépassée, où on doit faire de l'amalgame, hein, où les gens ont fait des, ce qu'il appelle société civile, c'était des partis politiques société civile, si on peut les qualifier ainsi, qui sont déguisés, dans, qui sont transformés en une sorte de société civile qui n'avait rien à faire avec l'action réelle de la société civile. Ces gens-là ont semé de la confusion à tel point que des compatriotes comme celui qui vient de poser la question sont inquiets. Donc la société civile à ce point-là, elle était politisée, mais il faut dire qu'il y a encore de l'espoir parce que la société civile dans notre société, elle est un peu plurielle, hein, selon les thèmes, selon les approches des uns et des autres qui sont en train de s'organiser. Il y en a qui sont trempés dans l'action politique, mais il y a d'autres qui n'ont rien à faire avec l'action politique. Donc, c'est le cas de la nouvelle société civile congolaise qui n'a rien à faire avec la politique. Il n'a aucun candidat qui est aligné. Donc, ces candidats-là, ils ne doivent pas les confondre. Déjà, ils sont aussi des listes de partis politiques. Comment encore continuer à les appeler comme membres de la société civile? Ils sont identifiés réellement sur une liste de partis politiques. Donc, il y a de l'espoir parce que nous sommes en train de travailler là-dessus pour redorer l'image ternie de la société civile dans notre pays. Si les ridicules pouvaient tuer, je crois que c'est du côté de la société civile qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Maître Adrien Ilobakwe de Kananga au Kasaï occidental, je pense que la société civile n'apportera rien dans ce processus, car nous ne savons pas quelle est la vraie, et surtout, elles ont toutes des tendances politiques, c'est-à-dire soit elles sont penchées vers la majorité au pouvoir, soit elles sont penchées vers l'opposition. Décidément, ou visiblement, Jonas Tshombela, la société civile, c'est un bon tremplin hein, pour accéder au pouvoir.
Non, ce n'est pas cela. Déjà, le compatriote de Kananga est tenté de s'inquiéter. C'est une conclusion très hâtive. Vous savez, vous n'allez pas dire que M. l'abbé Mugaruga, il dit très clairement, il est de la société civile, mais il n'est pas candidat. Voilà. Donc, il faut pas dire que tout le monde est trempé dans l'action politique. Comme chez nous, on sait qu'à partir de la politique, c'est l'endroit où on va aller chercher des fortunes. Mais voilà, il y a un abbé qui est à mes côtés, il y a plein de gens, il y a même l'église catholique de tout à l'heure, la Senko, qui n'est pas trempée dans des questions d'aller militer ou conserver ou accéder au pouvoir. Donc, il y a moyen de changer les choses. C'est vrai, les compatriotes ont encore une image très négative de la société civile. C'est pour cette raison que ceux qui sont engagés sur l'action réelle de la société civile, par moment, ceux qui ont torpillé l'image de la société civile sont toujours à la base des problèmes qui se passent dans ceux qui sont en train de changer les choses dans le cadre de la société civile. C'est un travail à faire, donc le compatriote doit encore espérer, il y a de l'espoir dans l'avenir.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique de la CENCO que nous avons suivi en début d'émission. À travers Monseigneur Nicolas Djomo, entend éveiller la conscience des électeurs et de ceux qui seront élus. Quel est finalement le rôle de la société civile particulièrement dans cette période?
Tout d'abord, la société civile, c'est un groupe de pression, c'est-à-dire il influence, n'est-ce pas, l'action du gouvernement pour l'orienter dans le sens, n'est-ce pas, des volontés de la population. parce que la société civile elle-même, c'est en quelque sorte une société organisée. Alors, aujourd'hui, je crois que avec la démocratisation des années 90, il a été mis sur pied, n'est-ce pas, un ensemble d'organisations professionnelles qui se sont mises ensemble et qui ont donné naissance, n'est-ce pas, à ce qu'on appelait la société civile. C'est une notion vraiment, il faut dire qu'elle est récente, n'est-ce pas, dans l'arène politique, n'est-ce pas, de notre pays, c'est pratiquement vers les années 90, pour voir une société civile
Monsieur l'abbé Mugaruka n'est pas très d'accord avec vous.
Négativement.
Nous sommes là pour en parler.
On lui donnera la parole. Allez-y. Alors, voilà à peu près. Et d'ailleurs, Monsieur Tchombel avait le dit tout à l'heure que la société n'a pas une notion stable, une notion précise de la société civile. C'est exactement les gesticulations, n'est-ce pas, de naissance, n'est-ce pas, d'une réalité sociale qui fait que même ceux qui doivent gérer la société civile n'arrivent pas, n'est-ce pas, vraiment au point qu'il faut pour pouvoir intérioriser l'importance, n'est-ce pas, le rôle et les missions, n'est-ce pas, de la société civile dans une société donnée. Donc cela montre déjà les faiblesses, n'est-ce pas, toutes les douleurs qu'il y a, n'est-ce pas, d'enfantement d'une nouvelle réalité politique. Mais, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le monde a parlé de retard ici. Ça montre que, quand une société civile qui évolue sans cahier de charges, or un cahier de charges, c'est pas seulement à la veille des élections. La société civile ne vit pas à la veille des élections, ne vit pas grâce aux élections. La société civile, c'est une société organisée, c'est-à-dire tous les besoins sociaux, que ce soit en matière d'énergie, en matière donc la scolarité, tout englobe, tout cela constitue, n'est-ce pas, les missions, n'est-ce pas, de la société civile. Et la société civile ne doit pas vivre seulement autour des élections qui sont très ponctuelles.
Vous voyez, qui sont très ponctuelles. Donc, à vous comprendre, tous pratiquement, nous avons perdu la notion de la société civile.
Nous avons non seulement perdu, nous l'avons mal intériorisée, et c'est qui a engendré, n'est-ce pas, cette perception erronée, n'est-ce pas, de la société civile. En plus de ça, la société politique, je veux dire les régimes politiques, les systèmes politiques en place, a semblé influencer complètement, n'est-ce pas, cette société civile qui n'arrive pas à se dédouaner, n'est-ce pas, des arènes politiques. Pour preuve, tout est en retard. Or, ce retard, nous le savons, non seulement au niveau de la société politique, mais à la société civile, nous savons que ce sont des choses que nous avons héritées, n'est-ce pas, des systèmes politiques, n'est-ce pas, de la Deuxième République, où tout se fait à la dernière minute et se fait mal, généralement. Hein, généralement, quand quelque chose se fait dans la précipitation, dans la dernière minute, c'est quelque chose qui est très mal fait. Donc, ce que je veux dire tout simplement, que la société civile, en fait, à un certain moment, c'est ça le moteur. C'est la société civile qui devait donner des missions, qui devait constituer l'essentiel des programmes politiques, n'est-ce pas ? Les programmes politiques des partis politiques, à partir des besoins de la société, que la société civile ramasse et met à la disposition des politiques, en ce moment-là, ce dernier arrive à élaborer des programmes en fonction des besoins exprimés, n'est-ce pas ? Par la société civile. Mais, curieusement, ce n'est pas le cas. La pyramide est complètement renversée, où c'est la société civile qui est la traîne, n'est-ce pas, du politique, à ce moment-là, on est désorienté. Donc, cette désorientation, en fait, elle est due à ça.
Bitangili Katompa, en province orientale, je pense que la société civile congolaise dans toutes les provinces devient inerte. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus quel rôle jouer pour bien éduquer la population. Et c'est la raison pour laquelle elle revient d'un sommeil et vient maintenant de se réveiller en retard, ne sachant plus ce qu'elle doit faire. Parmi les causes de cette inertie, il y a notamment la course au pouvoir des membres qui la composent et la non-considération des revendications de cette dernière par les autorités du pouvoir qui cherchent à tout prix à étouffer les membres de cette société civile. Je prends la deuxième assertion de cette réaction dans le sens où les gouvernants ne prennent pas en considération ce fameux cahier des charges de la société civile.
En fait, les gouvernements, eux, n'ont pas besoin de prendre en considération le cahier des charges. En principe, c'est la société civile qui doit imposer ce cahier des charges aux gouvernants. Voilà comment moi je conçois les choses. Parce que c'est la société civile qui ramasse les desiderata de la société, n'est-ce pas, et qui les présente, les besoins, n'est-ce pas, pour le cas précis ici, c'est pour un processus électoral, n'est-ce pas, qui présente à la population, et si la société civile est solidement implantée dans la population, n'est-ce pas, absolument, les pouvoirs politiques doivent prendre en compte, n'est-ce pas, le cas des charges. Mais si la société civile, elle n'est pas suffisamment implantée dans la société, en ce moment-là, ça devient difficile de prendre en considération le cas des charges de la société civile. Mais la société civile authentique, n'est-ce pas, celle-là devra prendre le pas sur le politique, et en ce moment-là, elle a une voix, n'est-ce pas? Elle a une voix à faire et elle a un pouvoir à pouvoir orienter, n'est-ce pas, les décisions politiques dans le sens de la volonté des masses.
Mais comment cette société civile va-t-elle imposer son cahier des charges du moment qu'elle est gangrénée par la misère et l'ignorance, comme l'a dit M. l'abbé Mugaruka?
La force d'une société civile, ce n'est pas d'abord l'argent. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Mais la force d'une société civile, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord une organisation forte. Une organisation forte, une mobilisation de la population, n'est-ce pas, autour de ses besoins. Et en ce moment, quand vous mobilisez, vous sensibilisez la population, vous constituez une force et une puissance. N'est-ce pas? Et là, l'argent vous rejoint. Quand vous constituez une force, l'argent vous suit. Je me rappelle en 90, quand la société civile prenait naissance, pratiquement, vous avez vu que toute la communauté internationale était encadrée à la société civile avec des formations et des moyens, et ainsi de suite et tout ça. Mais quand la société civile a perdu ses objectifs premiers, en ce moment-là, l'argent se perd aussi. Donc, vous n'attirez plus, vous n'intéressez plus. En ce moment-là, ça devient difficile, n'est-ce pas, d'avoir l'argent. Mais s'il faut mettre l'argent en première position et la sensibilisation, la mobilisation, donc les objectifs premiers d'une société civile, en ce moment-là, vous êtes affaibli dès le départ.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, il y a Matumaini Franklin de Bukavu Sud Kivu qui dit « Traditionnellement, la société civile n'a pas pour mission d'exercer le pouvoir, mais aujourd'hui la société civile congolaise commence à dévier de sa mission, c'est pourquoi elle aura du mal à s'intégrer d'une manière neutre aux élections, car elle risque d'être jugée partie, étant donné que ses activistes sont à la quête du pouvoir. Je pense que la société civile devrait redéfinir ses missions avant les élections. Est-ce possible, dans le temps qui nous reste ?»
Je crois qu'il y a un malentendu fondamental sur la notion même de société civile. Dans toute société humaine, il y a des gens qui, eux, ont choisi de servir la nation en exerçant le pouvoir. Et ces gens-là sont d'une extrême minorité. Pourquoi? Parce que les postes politiques dans un pays comme le nôtre n'excèdent pas 2000. Ou 3000, ou même maximum 4000, en prenant même le niveau local et le niveau communal. Il n'y a que 4000 postes politiques qui peuvent exister dans ce pays. Et nous sommes 60 millions, ils n'ont pas tous à ces 60 millions n'allons pas nous partager ces 4000 postes. Donc, et membres d'un parti politique, donc non membres de la société civile, quiconque s'engage à chercher à exercer le pouvoir. Et c'est une petite minorité qui le fait parce que déjà les places disponibles sont limitées. Prenons par exemple le cas actuel. Il y a 11 candidats à la présidence et 20 000 au poste de parlementaire. Ça représente combien par rapport à la population? Déjà les électeurs sont eux-mêmes à 32 millions. Donc tous les autres là qui ne sont ni dans les partis politiques, qui ne veulent pas être devenus ministres et tout ça, qui ne veulent pas exercer des fonctions politiques, c'est ça qu'on appelle la société civile. C'est au fond le peuple tout simplement, en dehors de ceux qui briguent des mandats politiques. C'est ça qu'on appelle la société civile. Maintenant, dans cette société civile, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont engagés et qui sont aussi une minorité, ceux qui sont dans les organisations et qui militent dans les organisations, ou qui militent positivement et activement. Il y en a d'autres qui sont la grande majorité, qui ne veulent pas devenir ministre, ou qui ne peuvent pas devenir ministre, qui ne peuvent pas exercer des fonctions politiques, mais qui sont là et qui constituent la masse populaire. C'est vous, c'est moi, c'est les mamans maraîchères, c'est les mamans commerçantes, c'est tous les commerçants, c'est tous les médecins, les juristes, les architectes, les ouvriers, les maçons, les menuisiers, qui ne veulent pas, qui ne luttent pas pour avoir un pouvoir quelconque, mais qui sont des citoyens.
Alors, faut-il redéfinir, monsieur l'abbé, les missions de cette société civile en RDC?
La société civile, c'est quoi? C'est le peuple. Et ce peuple-là, il est là parce que c'est ce peuple qui est la raison d'être de la politique. Tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir devraient le faire pour répondre aux besoins de ce peuple-là qui est la majorité. Et de un. Deux. Même avant de s'organiser comme société civile qu'on appelle avec des sigles, cette société civile exprime ses besoins d'abord dans la Constitution. Dans la Constitution, vous pouvez voir ce qu'on appelle les droits sociaux de la population. Le droit à la vie, le droit à la souveraineté, le droit à la participation citoyenne, le droit au logement, le droit au bien-être matériel, à la nourriture. C'est déjà dans la Constitution. Et donc, normalement, même si la société ne le dit pas de façon explicite, ces droits sociaux qui sont inscrits dans la Constitution devraient être la préoccupation de ceux qui dirigent. Et si quelqu'un veut conquérir le pouvoir, il doit être capable de répondre à ces droits-là. Et si, au moment où il exerce le pouvoir, il est incapable de satisfaire, de répondre à ses besoins sociaux, à ses droits sociaux constitutionnels, il devrait démissionner. Merci. Et donc, ces droits-là, on ne doit pas aller les chercher loin. Ils sont dans la Constitution. Et moi, j'ai déjà fait un moment, un relevé de ces droits que j'appelle constitutionnels. Et on pourrait aujourd'hui, sans aller trop loin, prendre la Constitution et dire quels sont les droits du peuple, donc de ce qu'on appelle la société civile, et comment est-ce que les politiciens qui sont là y ont répondu. Merci. Et comment est-ce que ceux qui se présentent comme candidats peuvent entendre y répondre pour que cela serve de critère de choix et de l'élection de la part du peuple, qui est la société civile en grande partie.
Jonas Chombela, il y a un Ngombo Augustin de Mbandaka à l'Équateur qui dit « À l'approche des élections, la société civile doit être la pierre angulaire des forces vives de la nation afin d'accélérer les réformes nécessaires à la réalisation du bien-être social. Elle doit imposer ses opinions aux candidats, aux électeurs, aux élus afin que les élections apportent des changements de mentalité de nos élus, de nos dirigeants et de notre population, enclin au vote communautaire, régionaliste et tribaliste. Or, nous savons comment évolue la société civile congolaise. Tantôt elle travaille en connivence avec le gouvernement, tantôt avec l'opposition. Nous encourageons l'Église catholique, qui est l'une des branches neutres de cette société civile, à jouer un véritable rôle de force vive de la nation congolaise. Comment, à votre niveau, vous avez parlé tout à l'heure d'un cahier des charges, comment vous pourrez rappeler aux différents candidats, à la population, comment vous pouvez rappeler ces droits dont a parlé M. Labbé qui sont consignés dans la Constitution?
Oui, mais vous savez
de quelle force disposez-vous, allais-je dire?
Ah oui, vous savez, la force est d'abord dans la loi qui doit être respectée.
On sait ce qu'est le respect de la loi dans ce pays.
Oui, nous savons ce qu'est le respect de la loi dans ce pays. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons vu jour. Pourquoi? Parce que nous avons compris que notre société, il y a une sorte de faillite du travail de ceux qui étaient censés diriger certaines structures de la société civile dans notre société. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels moyens disposons-nous pour communiquer ces gens? Vous savez que ça passe, et ça passe par moments bien aussi. Nous sommes en train de travailler sur une matière qui ne peut pas... Le compatriote qui se pose ce type de questions, il croit que c'est aussitôt dit que c'est aussitôt qu'on aura la réponse. C'est un travail qu'il faut faire et qu'il faut commencer quelque part. Donc, nous sommes dans un travail qui s'inscrit à long terme. Pour le moment, la société civile de notre pays est ce qu'elle est, mais il ne faut pas dire qu'elle ne va pas demeurer dans ces conditions-là. Je vais ajouter à la définition de tout à l'heure que M. Labbé, mon frère Joseph, est tenté de dire tout à l'heure. J'ajoute, il y a une autre société civile, une autre société aussi, qui est la société militaire, qui n'est pas à confondre avec la société civile et aussi la société politique. Ces trois types de sociétés, il faut les distinguer. Donc, de l'autre côté, c'est les armes, de l'autre côté, c'est l'action politique. Mais ici, nous sommes dans l'action sociale. Dans l'action sociale, il y a ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la conscience de cette maraîchère que M. Labbé a évoqué tout à l'heure. De travailler sur la conscience de ces menuisiers qui travaillent du matin au soir, qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il aura comme résultat, comme revenu pour son travail. De ces travailleurs qu'on n'a pas payés depuis très longtemps. Cette infirmière qui travaille du matin au soir. Voilà, cette société civile-là, on l'a intimidée, on l'a mis dans un climat de peur. Et nous sommes en train de travailler pour qu'ils comprennent que c'est la peur qui est l'air le plus grand ennemi. Donc, à partir de ce travail que nous sommes en train de faire, qui est inscrit à long terme, donc nous estimons que la société civile est en train de se réveiller, elle va se réveiller, et la population, qui est finalement la société civile, se réveillera aussi. Donc cette minorité...
Mais Jonas Chombela, elle va se réveiller le 28 novembre, c'est dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'on va finalement attendre? Quel est l'apport de cette société civile? On craint qu'il n'y ait rien.
Vous savez, mon frère, il ne faut pas attendre dans cet espace de temps. Tout était
donc
calculé.
Pour le 28 novembre, c'est raté.
Je ne veux pas plonger les gens dans le pessimisme. Vous savez, tout était tellement programmé par la classe politique, la classe politique. Vous savez qu'au départ, dans ces élections, la société civile a été exclue par la seule volonté de la classe politique. Par la seule volonté de la classe politique. Et les voilà, ils sont rattrapés par l'histoire. Ils sont allés actuellement, vous avez appris qu'ils sont à Addis Abeba. Mais quelles sont les résolutions qu'ils ont ramenées de là-bas? Moi, j'ai déjà quelques résolutions. Ils disent qu'il faut dégager un consensus. Qui est-ce qu'il faut quitter le Congo pour aller dire à Addis Abeba qu'il faut dégager un consensus? Donc, c'est ce que, des choses que nous disons ici au pays. Ils disent qu'il faut qu'il y ait l'accès aux médias par l'ensemble des candidats. Il faut que les candidats qui s'engagent à signer le code de bonne conduite. Est-ce qu'il faut quitter Kinshasa pour aller exprimer cette volonté à l'extérieur et la faire? Non, il y a un problème interne qui pose problème. La classe politique de notre pays est dans toute la misère de notre peuple. C'est la classe politique. Donc il faut que la population comprenne que là où vient notre misère, c'est là qu'il faut orienter notre action. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'élaborer ces cahiers de charges pour l'orienter vers cela et l'opposer à la population, pour dire que la population, voilà l'exigence de la population dans la direction des élections du 28.
Joseph Kongolo, vous réagissez après cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous.
Professeur Victor Okombe de Lubumbashi au Katanga. L'apport de la société civile pour garantir le bon déroulement du processus électoral doit être, à mon avis, un apport permanent. Parce que ça ne doit pas être des actions ponctuelles. Maintenant que nous voulons une société démocratique et que les élections vont désormais faire partie de notre vie en tant que nation. Et donc, à mon avis, cet apport doit être orienté vers tous les acteurs et doit concerner tous les aspects entourant les élections. Et doit d'abord, en premier lieu, être centré sur la bonne préparation des élections, sur la transparence, de façon à ce que ces élections soient rendues crédibles, de façon à permettre de minimiser les contestations post-électorales.
Joseph Kongolo, je reviens à la question que j'ai posée à Jonas Tshombela. Allons-nous attendre quelque chose de la société civile d'ici le 28 novembre 2011?
Malheureusement, vous savez, toute organisation sociale a besoin d'un leadership. Toute organisation sociale a besoin d'un leadership. Et il s'est fait fort, malheureusement, qu'au niveau de la société civile, il n'y a pas un leadership, n'est-ce pas, éclairé, qui puisse orienter, n'est-ce pas, l'ensemble d'actions de la société civile, n'est-ce pas, dans une même direction, pour mobiliser suffisamment. Parce qu'en fait, la réussite d'une société civile, c'est la capacité à mobiliser, à sensibiliser, à mobiliser les masses autour d'un problème donné. Voyez-vous? Alors, si cette mobilisation ou ce leadership qui doit galvaniser les opinions, n'est-ce pas, les orienter vers des objectifs précis, ce leadership manque, eh bien, il y a cette dispersion que nous constatons aujourd'hui. En plus, il y a un problème des moyens. Il y a un problème des moyens d'action. Qu'est-ce que la société civile actuelle dispose comme moyens d'action pour influencer? Parce que son rôle, c'est d'influencer la décision politique. Son rôle, c'est d'amener la décision politique dans le sens, n'est-ce pas, des volontés de la population, dans le sens des désidératas de la population. Quels sont les moyens d'action qu'ils présentent? Or, il n'y a pas suffisamment de moyens, de moyens d'action, n'est-ce pas? Et deuxièmement, un leadership, n'est-ce pas, unique, qui doit galvaniser les opinions. Je crois que je suis en train d'observer pratiquement que ce leadership qui manque un tout petit peu, l'Église catholique qui pouvait jouer bien ce rôle, malheureusement, je constate qu'il y a eu une sorte aussi de dispersion quelque chose dans ce sens-là. Donc, c'est un problème très sérieux. Pour, à l'instant, pour mais aujourd'hui, en fonction des élections qui sont en vue, je crois qu'il n'y a pas encore un temps perdu.
Alors, qu'est-ce qui peut être fait dans ce laps de temps?
Dans ce laps de temps, il faut organiser des rencontres, il faut organiser des débats politiques, mobiliser la population, former des observateurs, leur donner une ligne de conduite précise et arriver à faire le même travail que la CENI. Je crois que la société civile peut arriver, n'est-ce pas, à faire le même travail que la CENI. C'est-à-dire, après les élections, avant les élections, après les élections, et arriver, n'est-ce pas, à avoir aussi des résultats qui peuvent comparer, n'est-ce pas, aux résultats de la CENI. Donc, je crois personnellement que c'est possible de faire un travail de mobilisation intense au niveau, n'est-ce pas, de la base, n'est-ce pas, de les organiser et de les mettre, n'est-ce pas, sur le chemin des élections en tant qu'observateur, en tant que tout ça. Il y a plusieurs postes, n'est-ce pas, qui peuvent, en tant qu'observateur, et tout ça. Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose, ne fût-ce que donner l'impression au pouvoir organisateur que nous sommes suivis par la population. Nous n'avons pas le droit de faire une espèce de faux pas. C'est ça le rôle, c'est la dissuasion. Le rôle de la société civile, c'est aussi la dissuasion des pouvoirs en place.
Dans la multitude des actions à mettre à l'actif de la société civile, il y a ce message des chefs des confessions religieuses publié au mois d'août sous le thème « Pour des élections apaisées en RDC ». Quel pourrait être, Joseph Kongolo, l'impact d'un tel message dans la population et les dirigeants? Ne sont-ils pas en train de prêcher dans le désert?
Ils ne prêchent pas dans le désert. Vous savez, la société civile, elle est aussi très attentive, la société politique, elle est aussi très attentive, n'est-ce pas, aux déclarations de la société civile. Et particulièrement aujourd'hui, parce que le noyau dur, n'est-ce pas, de la société civile congolaise, ce sont les confessions religieuses. C'est ça le noyau dur, pour l'instant. Alors, vous savez, quand les églises font une déclaration, les églises sont suffisamment représentées plus que les partis politiques. Et je crois, franchement, que la société civile prend en compte ces déclarations, même si, par la suite, n'est-ce pas, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Mais, dans une société démocratique et dans un processus démocratique comme celui-ci qui utilise les élections comme choix des dirigeants politiques, je crois qu'ils doivent avoir une oreille très attentive, n'est-ce pas, aux déclarations des confessions religieuses ou de la société civile. Et je crois très franchement que la société civile aussi doit mobiliser cette base et rappeler toutes les déclarations faites, n'est-ce pas, en faveur de cette population et donner la possibilité à la population d'apprécier, n'est-ce pas, l'action, n'est-ce pas, du gouvernement sur leur bien-être.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo, UCC, et analyste. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Nous allons déjà aborder les conclusions, monsieur l'abbé. D'ici le 28 novembre, qu'est-ce qu'on peut attendre de la société civile concrètement, en guise de conclusion?
Pas grand-chose, parce que selon moi, le minimum des conditions pour pouvoir organiser des élections libres, transparentes et démocratiques, ce minimum de conditions n'est pas au rendez-vous. Et donc, ce que l'on peut faire aujourd'hui, ça sera seulement du rattrapage, un peu du saupoudrage, comme on a l'habitude de le faire, un peu de mimétisme, ça sera tout. Parce que la classe politique a enterré véritablement la démocratie en confisquant la souveraineté du peuple et surtout en refusant d'organiser les élections démocratiques à la base. Le fait qu'on n'a pas organisé des élections locales et communales est une faute grave, parce que notre démocratie est une démocratie tronquée qui repose non pas sur sa base, mais sur son sommet. Vous savez que la démocratie se vit essentiellement au niveau local, au niveau communal. Si on avait organisé ces élections-là, on allait avoir des leaders qui représentent véritablement les communautés locales et les biens et les problèmes sociaux du peuple. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Maintenant, bon, on va faire du saupoudrage. Et c'est pour cela que je crains beaucoup que cela ne dérape. Les conditions minimales, les fondamentaux n'y sont pas. Et donc, nous allons faire quelque chose de mimétique, mais à partir d'ici, je crois qu'on devrait tirer des conclusions. Il faudrait qu'on tire des leçons des insuffisances actuelles, afin qu'on sache que la démocratie est une mentalité et une culture qui s'apprend et qui doit être enseignée et à la mentalité à laquelle il faut éduquer le peuple en permanence.
Merci, monsieur l'abbé. Jonas Tchombela, les problèmes quotidiens du Congolais n'auront-ils pas le dessus sur l'action de la société civile, en guise de conclusion?
Oui, je crois que nous sommes là face à des situations de malgouvernance, parce que on devait déjà préparer les élections, mais on les a pas préparées à temps, et nous sommes pris maintenant par tout le coup qui nous envahit. Il faut voir comment les dirigeants. Donc nous, à notre niveau, nous pensons que d'ici le 28, il y a 3 actions qu'il faut mener. La première, c'est d'abord les exigences de la population.
La deuxième,
ce sera d'abord l'engagement des candidats.
La troisième,
et toute la population doit s'engager pour des élections apaisées.
Merci, Joseph Kongolo, conclusion.
Je crois qu'une société moderne, parce qu'on parle de la modernisation, ce n'est pas celle-là qui a une société civile qui est perdue dans ses missions premières. Je crois qu'il faudra refonder cette société civile, arriver à l'asseoir dans les masses, de manière à influencer le pouvoir politique.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci également à Kelly Nkoute et Samuel Kachak qui vous l'ont préparé sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, à la technique Alain Ngoy et Jean-Claude Nsiala. Présentation et coordination, Alain Roumouchige. Au revoir.